Chapitre 12. À la fin du chapitre 11, nous avons entendu les chefs des Juifs plaider l'ignorance. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Ils ne pouvaient pas le dire. Et encore moins pouvaient-ils comprendre le travail et le service de notre Seigneur. Nous ouvrons ce chapitre 12 pour y voir démontrer de façon évidente que Jésus connaissait et comprenait parfaitement ces hommes. Il savait ce qui les poussait, ce qu'ils pensaient, et le but qu'il poursuivait. Il révèle qu'il sait bien qui ils sont dans une parabole remarquable. Le premier verset nous parle de parabole, et l'évangile selon Matthieu nous montre qu'alors Jésus en a dit trois. Marc ne rapporte que la deuxième des trois, celle qui annonçait à l'avance ce que ces chefs juifs allaient faire et quelles en seraient pour eux les conséquences. Dans cette parabole, les cultivateurs représentaient les chefs responsables en Israël, et un résumé nous est donné de la manière dont, à travers les siècles, ils avaient refusé toutes les exigences de Dieu. En parlant d'une vigne, le Seigneur Jésus reprenait une image qui avait été utilisée dans l'Ancien Testament, au psaume 80, en Ésaïe 5 et ailleurs. Dans ce psaume, le cep représente de façon évidente Israël, et de lui doit sortir une branche, un provins, qui est le Fils de l'homme que tu as fortifié pour toi. Dans Ésaïe, il est tout à fait clair que Dieu n'a pas retiré de sa vigne ce qu'il était en droit d'attendre. Et voilà que maintenant, bien des années après, nous retrouvons cette histoire. Le maître de la vigne avait fait ce qui lui incombait en fournissant tout ce qui était nécessaire, et la responsabilité quant aux fruits reposait sur les cultivateurs à qui la vigne était confiée. Ils n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités, et puis ils se sont mis à nier les droits du maître et à maltraiter ses représentants. Et finalement, ils ont été mis à l'épreuve par la venue du fils du maître de la vigne. De la même manière, les chefs d'Israël avaient maltraité les prophètes et en avaient tué quelques-uns. Et alors est apparu le fils, qui est cette branche dont parle le psaume. Voilà la mise à l'épreuve suprême. La position des Juifs placés sous la loi est décrite dans cette parabole. Donc la question est de voir s'ils peuvent produire ce que Dieu exige. Ils ne l'ont pas fait. Non seulement il y a eu absence de fruits, mais la présence d'une haine déclarée pour Dieu et ceux qui le représentent, et cette haine a atteint son apogée quand le Fils est apparu. Les chefs responsables étaient poussés par la jalousie, et ils voulaient garder tout l'héritage pour eux seuls. Aussi se prépare-t-il à faire mourir Jésus. Un ou deux jours avant, ils avaient décidé de le faire mourir, comme nous l'a appris le verset 18 du chapitre précédent. Maintenant, le Seigneur leur révèle qu'il connaissait leurs méchantes pensées. Et il leur montre aussi quelles en seront pour eux les terribles conséquences. Ils seront dépossédés et détruits. Cela s'est accompli historiquement à la destruction de Jérusalem, et sans aucun doute aura plus tard un plein accomplissement qui sera définitif au dernier jour. Celui qu'ils ont rejeté deviendra la maîtresse-pierre du coin de tout ce que Dieu est en train de bâtir pour l'éternité. Quand se réalisera cette prédiction, ce sera, en vérité, une merveille devant les yeux d'Israël. Cette déclaration que le maître de la vigne donnera la vigne à d'autres est une annonce de ce qui est davantage mis en lumière en Jean 15. D'autres deviendront des sarments du vrai cep et porteront du fruit. Seulement ce ne sera plus en étant sous la loi qu'ils le feront, et ils ne seront pas choisis seulement parmi les Juifs. Les paroles du Seigneur les avertissent que, puisqu'ils l'ont rejeté, Dieu les mettra de côté. D'autres seront assemblés et introduits, jusqu'à ce que, à la fin, celui qu'ils rejetaient domine sur tout. Ils se rendent compte que cette parabole a prononcé contre eux un jugement. N'osant pas pour l'instant mettre les mains sur le Seigneur, ils se lancent dans une attaque verbale contre lui, essayant de le surprendre dans ses paroles. Viennent d'abord les pharisiens, associés aux hérodiens. Leur question sur l'argent du tribut est habilement combinée pour que, d'une manière ou d'une autre, Jésus offense les sentiments patriotiques des Juifs ou des Romains. Cependant, sa réponse les réduit à l'impuissance. Il les oblige à admettre leur servitude à l'égard de César en ayant recours à la frappe de leur monnaie. Et ce sont leurs bouches et non la sienne qui déclarent qu'elle était l'image de César. Puis, non seulement ils donnent à leur question la réponse qui est parfaitement évidente, à la lumière de ce qu'ils ont reconnu eux-mêmes, mais cela amène à introduire la question bien plus importante des droits que Dieu avait sur eux. On comprend bien qu'ils soient dans l'étonnement à son sujet. Nous pouvons remarquer, au verset 14, que ses adversaires rendaient hommage à sa parfaite vérité d'une manière qui allait bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient concevoir dans le sens le plus absolu. Il était la vérité et enseignait la vérité sans se laisser détourner par l'homme et son petit univers. Cela n'a pu être dit d'aucun autre serviteur de Dieu. Même Paul a été influencé par des considérations humaines, comme nous le montre Actes 21, versets 20 à 26. Seul Jésus est le parfait serviteur de Dieu, et il était si pauvre qu'il a dû demander qu'on lui apporte un denier. Ensuite viennent les Sadducéens qui lui demandent de démêler l'imbroglio matrimonial qu'il lui expose. C'est ce que Jésus fait, et il les convainc de leur folie. Mais avant de le faire, il révèle les causes profondes de cette folie. Ils ne connaissaient pas les Écritures, ce qui était de l'ignorance. Ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu, ce qui était de l'incrédulité. Leur erreur incrédule reposait sur deux piliers. L'incrédulité moderne, qu'on peut apparenter à celle des Sadducéens, repose exactement sur ces deux mêmes piliers. Continuellement, on cite les Écritures, mais de travers, et on les interprète mal, ou on les mutile, et on conçoit Dieu comme s'il n'était pas vraiment le Tout-Puissant, comme si c'était tout simplement un homme ayant seulement des pouvoirs plus grands que nous. Le Seigneur prouve la résurrection des morts en citant l'Ancien Testament. La chose se trouve de façon implicite en Exode 3, verset 6. Dieu était toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des centaines d'années après leur mort. Bien que mort pour les hommes, il vivait pour Dieu, et cela signifiait qu'il devait nécessairement ressusciter. Le fait était là, dans les Écritures. En le niant, le Sadducéen démontrait tout simplement son ignorance. Puisque ce fait se trouvait dans les Écritures, le Seigneur, conséquent avec son caractère de serviteur, fait appel aux Écritures et ne l'affirme pas de façon dogmatique en se fondant sur sa propre autorité. Ce qu'il déclare de façon dogmatique se trouve au verset 25, où il indique clairement dans quel état ou dans quelles conditions la résurrection nous introduira, allant ainsi au-delà de ce qu'enseignait l'Ancien Testament. Le monde de la résurrection est différent du monde où nous sommes. Les relations terrestres cessent dans cet état céleste. Nous ne sommes pas destinés à être des anges, mais à être comme des anges qui sont dans les cieux. L'immortalité et l'incorruptibilité seront notre part. Il est donc clair que, dans leur ignorance, les Sadducéens avaient soulevé une difficulté qui, en réalité, n'avait pas de raison d'être. Leur déroute était complète. L'un des scribes qui écoutait s'en rend compte et se risque à soulever une question qui était souvent sujet de discussion entre eux et portée sur l'importance relative des différents commandements. La réponse du Seigneur balaye leurs laborieux raisonnements et disputes de mots quant à l'un ou l'autre des 10 commandements en allant droit à ce qui se trouve en Deutéronome 6, versets 4 et 5. Il y a là un commandement qui englobe tous les autres. Dieu exige d'être absolument au-dessus de tout dans les affections de ses créatures. S'il en est ainsi, tout le reste prend la place qui convient. Il s'agit du commandement suprême qui gouverne tout. Dans ce commandement se trouvait un élément de grand encouragement. Pourquoi Dieu se soucierait-il de posséder sans partage l'amour de sa créature? À cette question, la foi répondra en disant « Parce que lui-même est amour. Étant amour et aimant sa créature, même si elle est perdue dans ses péchés, il ne peut être satisfait sans l'amour de sa créature. » Les fils d'Israël ne pouvaient pas arrêter leurs yeux sur la consommation de la loi. 2 Corinthiens 3, verset 13. S'ils avaient pu le faire, c'est ce qu'ils auraient vu. Pour le second commandement, Le Seigneur renvoie le scribe à Lévitique 19, verset 18, autre passage inattendu. Mais évidemment, ce commandement découle du premier. Personne ne peut avoir la capacité et le désir d'agir comme il convient avec son prochain s'il n'est d'abord dans une juste relation avec son Dieu. Mais l'amour est l'essence de ce second commandement tout autant que du premier. Aimer son prochain comme soi-même est la mesure que donne la loi. Seulement, sous la grâce, on peut faire un pas de plus. C'est ce qu'ont fait par exemple Aquilas et Priscilla, qui ont exposé leur propre coup pour la vie de Paul, comme cela nous est rapporté en Romains 16, verset 4. Cependant, l'amour est la somme de la loi, Romains 13, verset 10, et cela est dit en rapport avec ce second commandement. Le scribe sent la force de cette réponse, comme le montrent les versets 32 et 33. La série de questions avait commencé avec cette déclaration « Maître, nous savons que tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. » Cela avait été dit par les pharisiens et les hérodiens dans un esprit d'hypocrisie. Elle se termine avec ce scribe qui dit en toute sincérité « Bien, maître, tu as dit selon la vérité. » Cet homme voyait que l'amour qui amènerait au plein accomplissement de ces deux grands commandements était bien plus important que l'offrande de tous les sacrifices que prescrivait la loi. Les sacrifices avaient leur place, mais ils n'étaient qu'un moyen pour arriver à une fin. L'amour est la fin de l'ordonnance, comme nous le dit 1 Timothée 1, verset 5. La fin est plus grande que les moyens. Ainsi, ce scribe approuvait la réponse qui lui avait été donnée. La réplique du Seigneur au verset 34 est très frappante. Il déclare que cet homme n'est pas loin du royaume de Dieu, et cela montre deux choses. Premièrement, quiconque s'éloigne de ce qui est extérieur et rituel pour se rendre compte de l'importance de ce qui est intérieur et vital devant Dieu n'est pas loin de la bénédiction. Deuxièmement, tout important que cela soit, ce n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume. Il faut quelque chose de plus. Il faut avoir aussi la disposition d'esprit d'un petit enfant, comme nous l'avons vu en considérant le chapitre 10. Ce scribe était près du royaume, mais il n'y était pas encore entré. Cette réponse, nous semble-t-il, désarçonne cet homme, ainsi que les autres auditeurs, et à cause de cela, personne n'ose plus poser à Jésus d'autres questions. Un homme, comme ce scribe, bien versé dans la loi de Dieu, était considéré comme étant dans le royaume. Cela allait de soi. Les paroles du Seigneur perturbent leurs pensées. Cependant, parce que ce scribe voyait que Dieu cherche et apprécie ce qui est moral et spirituel, au-delà de ce qui est rituel et charnel, il avait fait un bon bout de chemin en direction du royaume. Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint », souligne cela en ce qui nous concerne, au moins dans le principe. L'avons-nous pleinement reçu? Ses adversaires, en ayant fini avec leurs questions, le Seigneur leur pose, à eux, sa question fondamentale sur ce qui est dit au psaume 110. Les scribes savaient parfaitement que le Messie devait être le fils de David. Cependant, voilà David qui parle de lui comme étant son Seigneur. Parmi les hommes, en ce temps-là, un père ne s'adressait jamais à son fils en ces termes. C'était plutôt le contraire. Le fils appelait son père « Seigneur ». Comment le Christ pouvait-il être le fils de David? Les scribes avaient-ils tort d'affirmer cela? Ou alors pouvaient-ils donner une explication? Ils ne peuvent pas donner d'explication. Ils se taisent. L'explication était extrêmement simple, mais, confrontés au Christ et ne voulant pas de propos délibérés reconnaître ses droits, ils se refusent à l'avoir. Jésus était le fils de David, et David l'appelait Seigneur par le Saint-Esprit. Aussi n'y avait-il pas à s'y tromper. L'explication la voici. Le Fils de Dieu devenait le Fils de David selon la chair, comme cela est si nettement déclaré en Romains 1, verset 3. Une fois que la déité de Christ est pleinement reconnue, tout devient simple. Ces versets jettent beaucoup de lumière sur ce qui est dit en 1 Corinthiens 12, verset 3. Nul ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit Saint. Le Seigneur avait maintenant répondu à toutes les questions de ses adversaires et leur avait posé une question à laquelle ils n'avaient pas su répondre. S'ils avaient été capables d'y répondre, ils seraient entrés en possession de la clé de toute la situation. La foule prenait encore plaisir à l'entendre, mais les scribes étaient aveugles, et au verset 38 à 40, le Seigneur met en garde le peuple contre eux. Ceux qui, aveuglément, se laissaient mener, sont mis en garde contre leurs conducteurs aveugles. Les mobiles et les buts véritables des scribes sont démasqués. La parole de Dieu qui sort de la bouche du Seigneur atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit de façon infaillible. Le péché qui les caractérisait était qu'ils recherchaient leur propre intérêt dans les choses de Dieu. Que ce soit sur la place publique, centre des affaires, à la synagogue, centre religieux, au repas, cercle social, il fallait absolument qu'ils aient une position dominante, et c'est dans ce but qu'ils portaient des habits qui les distinguaient des autres. Ayant obtenu cette position prééminente, ils s'en servaient pour amasser des biens au détriment des veuves, la partie la plus désarmée de la communauté. Acquérir le pouvoir et l'argent était la fin et le but de leur religion. Ils suivaient le chemin de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire d'iniquité. De Pierre 2, verset 15. Et ils sont trop nombreux, de nos jours, ceux qui foulent ce mauvais chemin, dont la fin est une sentence plus sévère. Le qualificatif, vous le remarquerez, n'est pas « plus longue », comme s'il pouvait y avoir des différences de durée dans le châtiment. Mais il y aura bien des différences quant à la sévérité. Les adversaires du Seigneur avaient provoqué cette discussion avec leurs questions. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Et les mots avec lesquels il clôt la discussion ont dû tomber de ses lèvres avec la force d'un couperet. Calmement, il assume la fonction de juge de toute la terre et prononce leur condamnation irrévocable. S'il n'avait pas été le Fils de Dieu, cela aurait été folie, et même pire. Mais c'est aussi le Fils de Dieu qui s'assied vis-à-vis du trésor du temple et qui regarde les dons de la foule, et c'est avec la même sûreté qu'il apprécie la valeur de ses dons. Une pauvre veuve s'approche. Peut-être une veuve qui avait souffert des escroqueries de scribes rapaces. Et elle jette au trésor tout le peu qu'elle a. Il ne lui restait que 2 pièces de monnaie, les plus petites qui soient, et elle les jette toutes les deux. Selon l'estimation des hommes, son don était absurde et méprisable tant il était petit. Sa présence ne serait pas remarquée et son absence n'aurait pas été ressentie. Selon l'estimation de Dieu, il avait plus de valeur que tous les autres dons réunis. L'arithmétique de Dieu dans de tels cas n'est pas la nôtre. Pour Dieu, les mobiles qui font agir sont tout. Voilà une femme qui, au lieu de faire des reproches à Dieu, à cause des méfaits des scribes qui prétendaient le représenter, consacre tout ce qu'elle a au service de Dieu. Cela réjouit le cœur de notre Seigneur. Il appelle ses disciples, comme nous le rapporte le verset 43, et leur montre cette femme, proclamant la valeur de ce qu'elle a fait. Cela est particulièrement frappant si nous remarquons comment s'ouvre le chapitre 13, car ses disciples désirent lui faire remarquer la grandeur et la beauté des bâtiments du temple. Eux signalent les pierres magnifiques façonnées par le travail de la main de l'homme. Le Seigneur, lui, souligne la beauté morale de ce qu'a fait une pauvre veuve. Il leur dit que leurs grands bâtiments s'effondreront pour devenir des ruines. Ce que cette veuve a fait sera rappelé dans l'éternité. Et cependant, cette veuve a donné 2 pites au trésor qui recevait les contributions pour l'entretien des bâtiments du temple. Le Seigneur a déjà tourné le dos au temple et prononce maintenant sa condamnation. Elle ne le sait pas. Mais même si son intelligence n'a pas encore saisi cela, son don est accepté et estimé à la mesure du dévouement de son cœur qui l'a poussé à le faire. Quel encouragement! En faisant un don, elle a Dieu devant elle, et Dieu demeure alors même que les temples sont détruits. Les choses matérielles dans lesquelles nous risquons de mettre notre cœur disparaissent. Dieu demeure.